dans la famille. Pendant cette lecture, Clotilde était demeurée dans le jardin du notaire, assise sur un banc, à l'ombre d'un antique marronnier. Lorsque Pascal et Félicité reparurent, il y eut un moment de grande gêne, car ils ne s'étaient pas reparlés depuis des mois. D'ailleurs, la vieille dame affectait une aisance parfaite, sans allusion aucune à la situation nouvelle, donnant à entendre qu'on pouvait bien se rencontrer et paraître unis devant le monde, sans s'expliquer ni se réconcilier pour cela. Mais elle eut le tort de trop insister sur le gros chagrin que lui avait causé la mort de Macquart. Pascal, qui se doutait de son sursaut de joie, de son infinie jouissance, à la pensée que cette plaie de la famille, cette abomination de l'oncle, allait se cicatriser enfin, céda à une impatience, à une révolte qui le soulevait. Ses yeux s'étaient involontairement fixés sur les gants de sa mère, qui étaient noirs. Justement, elle se désolait d'une voix adoucie. Oh si, était-ce prudent à son âge de s'obstiner à vivre tout seul comme un loup, s'il avait eu seulement chez lui une servante? Et le docteur alors parla, sans en avoir la nette conscience, dans un tel besoin irrésistible qu'il fut tout effaré de s'entendre dire « Mais vous, ma mère, puisque vous y étiez, pourquoi ne l'avez-vous pas éteint ?» La vieille madame Rougon blêmit affreusement. Comment son fils pouvait-il savoir ? Elle le regarda un instant, béante, tandis que Clotilde pâlissait comme elle, dans la certitude du crime, éclatante maintenant. C'était un aveu, ce silence terrifié qui était tombé entre la mère, le fils, la petite fille. Ce frissonnant silence où les familles enterrent leur tragédie domestique. Les deux femmes ne trouvaient rien. Le docteur, désespéré d'avoir parlé, lui qui évitait avec tant de soin les explications fâcheuses et inutiles, cherchait éperdument à rattraper sa phrase. Lorsqu'une nouvelle catastrophe les tira de cette gêne terrible. Félicité s'était décidée à reprendre Charles, ne voulant pas abuser de la bonne hospitalité de M. Morin. Et, comme celui-ci, après le déjeuner, avait fait conduire le petit à l'asile, pour qu'il passât une heure près de tante Dide, il venait d'y envoyer sa servante avec l'ordre de le ramener tout de suite. Ce fut donc à ce moment que cette servante, qu'ils attendaient dans le jardin, reparut, en sueur, essoufflée, bouleversée, criant de loin « mon Dieu, venez vite, Monsieur Charles est dans le sang !» Ils s'épouvantèrent. Ils partirent tous les trois pour l'asile. Ce jour-là, tante Dide était dans un de ses bons jours, bien calme, bien douce, droite au fond du fauteuil où elle passait les heures, les longues heures, depuis 22 ans, à regarder fixement le vide. Elle semblait avoir encore maigri. Tout muscle avait disparu. Ses bras, ses jambes n'étaient plus que des os recouverts du parchemin de la peau. Et il fallait que sa gardienne, la robuste fille blonde, la portât, la fît manger, disposât d'elle comme d'une chose qu'on déplace et qu'on reprend. L'ancêtre l'oubliait, grande, noueuse, effrayante, restait immobile, avec ses yeux qui vivaient seuls, ses clairs yeux d'eau de source, dans son mince visage desséché. Mais, le matin, un brusque flot de larmes avait ruisselé sur ses joues, puis elle s'était mise à bégayer des paroles sans suite, ce qui semblait prouver qu'au milieu de son épuisement sénile et de l'engourdissement irréparable de la démence, la lente induration du cerveau ne devait pas être complète encore. Des souvenirs restaient emmagasinés, des lueurs d'intelligence étaient possibles. Et elle avait repris sa face muette, indifférente aux êtres et aux choses, riant parfois d'un malheur, d'une chute, le plus souvent ne voyant, n'entendant rien, dans sa contemplation sans fin du vide. Lorsque Charles lui fut amené, la gardienne l'installa tout de suite devant la petite table, en face de sa trisaïeule. Elle gardait pour lui un paquet d'images, des soldats, des capitaines, des rois, vêtus de pourpre et d'or, et elle les lui donna avec sa paire de ciseaux. « Là, amusez-vous tranquillement, soyez bien sage. Vous voyez qu'aujourd'hui grand-mère est très gentille. Il faut être gentil aussi. » L'enfant avait levé le regard sur la folle, et tous deux se contemplèrent. À ce moment, leur extraordinaire ressemblance éclata. Leurs yeux surtout, leurs yeux vides et limpides, semblaient se perdre les uns dans les autres, identiques. Puis c'était la physionomie, les traits usés de la centenaire qui, par-dessus trois générations, sautaient à cette délicate figure d'enfant, comme effacée déjà elle aussi, très vieille et finie par l'usure de la race. Il ne s'était pas souri, il se regardait profondément, d'un air d'imbécilité grave. « Ah, bien !» continua la gardienne qui avait pris l'habitude de se parler tout haut pour s'égayer avec sa folle. « Ils ne peuvent pas se renier. Qui a fait l'un a fait l'autre. C'est tout craché. Voyons, riez un peu, amusez-vous, puisque ça vous plaît d'être ensemble. » Mais la moindre attention prolongée fatiguait Charles, et il baissa le premier la tête. Il parut s'intéresser à ces images. Pendant que tante Did, qui avait une puissance étonnante de fixité, continuait à le regarder indéfiniment, sans un battement de paupières. Un instant, la gardienne s'occupa, dans la petite chambre, pleine de soleil, tout égayée par son papier clair à fleurs bleues. Elle refit le lit qui prenait l'air, elle rangea du linge sur les planches de l'armoire. D'habitude, elle profitait de la présence du petit pour se donner un peu de bon temps. Jamais elle ne devait quitter sa pensionnaire. Et quand il était là, elle avait fini par oser la lui confier. « Écoutez bien, reprit-elle, il faut que je sorte, et si elle remuait, si elle avait besoin de moi, vous sonneriez, vous m'appelleriez tout de suite, n'est-ce pas? Vous comprenez, vous êtes assez grand garçon pour savoir appeler quelqu'un. » Il avait relevé la tête, il fit signe qu'il avait compris et qu'il